repérage du bibliothécaire.
Mr. Benigno.
Bonjour Marc, comment vas-tu en cette fin d'été, cette fin chaude quand même?
Mais magnifique, magnifique. Pour moi, ça pourrait continuer comme ça toute l'année.
C'est vrai?
Ouais.
Mais t'inquiète pas, au rythme qu'on y va, on n'aura que de l'été d'ici quelques temps. Hein.
Ouais, d'accord. D'accord.
Avec le réchauffement.
Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu nous as découvert dans la liste de ce mois?
Alors, écoute, la liste de ce mois est une liste bien BSR, bien locale, mais bien, bien riche en livres des origines et genres divers. Parmi tous les livres qu'on va proposer, on a quatre, j'ai extrait quatre, qui sont un petit peu atypiques, deux fictions, donc deux romans et deux documentaires. Donc, il y a notamment un livre, le dernier, de ces grands maîtres de l'espionnage, qui était lui-même espion d'ailleurs, qui s'appelle John le Carré. On connaît bien John le Carré. Et son dernier s'appelle l'héritage des espions. Alors, comme toujours, il y a la question des espions, l'Est, l'Ouest. Donc là, on est en 2017. Et puis, il y a un Peter Gilliam, qui est un personnage de Le Carré, qui est disciple de Smiley, qu'on trouve souvent dans les livres de Jean Le Carré, et qui est rappelé parce qu'il y a toute une histoire. Il doit déterrer des archives concernant une opération qui avait été faite en Europe de l'Est, donc en Allemagne de l'Est, toutes ces affaires où les espions essayaient de sauver le monde, la démocratie et leurs intérêts. Et donc, il y a toutes ces affaires troubles, cette question d'espionnage, des suspens. Mais bien entendu, il y a toutes les questions les questionnements de fonds politiques, à quoi servent les espions, quelle est à quoi sert l'être humain. Donc il y a un questionnement qui est un peu plus profond que juste toute une histoire des suspens et des trafics entre espions. Donc c'est un livre qui a une certaine densité. Et Jean Le Carré connaît son affaire, il était lui-même. Donc le livre promet d'être vraiment de grand intérêt pour nos auditeurs et nos auditrices. Et il est disponible avec le numéro 38118. Voilà pour Jean Le Carré. Maintenant, on fait un petit saut dans les documentaires. Et on a un livre qui est très intéressant. Je l'avais légèrement évoqué une fois quand on l'avait acheté. Et c'est un livre d'un Américain qui s'appelle David Gunn, de N. En français, il a été traduit sous le titre « La note américaine ». Et c'est un livre qui parle d'un côté un fait méconnu, c'est-à-dire que les Anglais d'abord, et puis après les Américains, et tout ce qu'ils ont fait avec les Autochtones, les Indiens d'Amérique, ils les ont chassés un petit peu, ils les ont mis dans des réserves, accessoirement ils les ont tués, pour un peu avoir de la terre. Ouais, oui, ouais. Tu vois, il faut quand même cultiver la terre. Donc, disait-il. Et il y a une tribu qui n'est pas celle des plus connues. Hein, ce n'est pas les Apaches, ni les Sioux, etc. Et cette tribu, ce peuple s'appelle les Osage. Et ils ont été placés dans une région complètement aride, on pourrait dire, dans le langage du bistrot d'en bas, dans une terre complètement pourrie. Sauf que, sous ces cailloux, sous ces sables, et tous ces schniques qui ne servaient à pas grand-chose du point de vue agricole, il y avait les plus grandes réserves de pétrole des États-Unis. Or, quand ils ont eu cette terre, ils ont demandé, d'accord, vous nous donnez ces cailloux, mais on est propriétaire de cailloux et de ce qu'il y a sous les cailloux. Et il se trouve qu'il y avait les plus grandes réserves. Donc, ces Indiens, ils sont devenus milliardaires. Et pendant une certaine période, ils roulaient en Mercedes, Ils envoyaient les enfants étudier dans les universités, les grandes universités européennes. Ils avaient des serviteurs blancs. Mais il y a un problème. Parce que dans les États-Unis, jusqu'à assez tard dans le XXe siècle, les Indiens d'Amérique n'avaient pas le droit. Ils étaient considérés comme des enfants. Donc, pour extraire de l'argent de la banque, il fallait qu'ils aient un tuteur blanc. Donc, même si c'était milliardaire, il fallait un tuteur blanc. Et donc, ils avaient des tuteurs blancs, mais qui n'étaient pas eux riches, c'était les Indiens qui étaient riches. Et tout d'un coup, un jour, il y a des Indiens qui commencent à mourir accidentellement, comme ça, les uns après les autres, de cette tribu. Et à un moment donné, on se rend compte que quand même, ça fait trop d'accidents quand même. Et malgré tout, évidemment, il y en a qui commencent à s'inquiéter, et à s'inquiéter. Et on appelle un petit bureau qui, à l'époque, était encore pas très sexy, pas très intéressant, qui s'appelait le Bureau of Investigation, et qui va changer de nom. Et on appelle un jeune homme ambitieux, un petit peu vicieux et ambitieux, mais très brillant, qui s'appelait Edgar, pas comme notre lecteur, il s'appelait Edgar Hoover. Et ça va devenir l'FBI. Et Edgar Hoover, c'est celui qui va... Enfin, pas lui directement, il y a un de ces enquêteurs, mais c'est lui qui va donner les méthodes, toutes ces méthodes de fichage, d'analyse des fiches, des empreintes, toutes ces méthodes scientifiques qui feront après les succès du FBI. Il les met en place, il découvre les poteaux roses, si on peut dire ça comme ça, et il devient un des hommes les plus puissants des États-Unis de cette manière. Et donc, c'est en même temps l'histoire de ces tribus indiennes et l'histoire de l'ascension d'Edgar Hoover grâce à ces cas. Donc, c'est un livre très intéressant, ça s'appelle La Note américaine, et c'est le numéro 38107. Voilà pour les documentaires. Alors, encore deux autres, et on passe à autre chose. On a un autre livre des fictions, aussi légèrement atypique, qui est d'un écrivain allemand qui s'appelle Jean-Philippe Senker. Philippe avec deux P et un E. Senker. Et le livre s'appelle « Le langage de la solitude ». Alors, ça se déroule en Chine, plutôt entre Hong Kong et la Chine communiste. Alors, il y a un monsieur qui s'est retiré, et un Européen, qui habite tout près de Hong Kong, dans une petite île, il a eu des problèmes très, très sérieux dans sa famille, et il a rencontré une Chinoise de Hong Kong, bah, une relation amoureuse, et puis tout d'un coup, cette femme, qui, on apprendra, si on lit, écoute le livre, c'est que je vous recommande, et a une histoire assez trouble, il y a une partie de la famille qui, enfin son frère, il est en Chine, donc dans la Chine communiste, et l'appelle parce qu'il y a un problème étrange qui se passe là-bas, il y a des gens qui meurent mystérieusement, donc tu vois, il y a toujours une question de mort.
Qu'est-ce qui fait réagir,
hein. Oui, exactement, apparemment, c'est ça qui fait vibrer un peu. Et puis là, mais il y a une maladie étrange, une maladie neurologique étrange qui tue les gens lentement, et là c'est pas... Et puis... Il va le voir, il va en Chine communiste, la peur au ventre. Et Paul, donc son amant, son ami, l'accompagne. Et lui, qui était un ancien journaliste d'investigation, tout d'un coup, il commence à essayer de trouver les causes. Alors, il y a une histoire de pollution, de contamination, une histoire des grandes industries, des grosses industries pharmaceutiques, une histoire des pouvoirs chinois et de toute la complexité de la manière chinoise de résoudre les problèmes. Et... Les livres, alors, il y a une apparence, parce qu'évidemment, il y a des morts, hein, enfin, en tout cas, des gens très malades, il y a des yeux suspens, il y a de la violence, mais on pourrait pas dire en soi que c'est un roman policier ou de suspense, parce que c'est un roman un peu plus méditatif, un peu plus réflexif, et aussi, il y a un petit côté social sur la situation de la Chine, qui est très bien décrit très finement, et de même que les sentiments amoureux ou autres entre les personnages. Et surtout la psychologie chinoise, c'est un livre vraiment remarquable, Le langage de la solitude, avec le numéro 38117.
C'est vrai que le monde de la Chine, c'est un peu une autre planète par rapport à nous, hein.
Oui, oui, il y a des codes, il y a des manières de réagir et d'affronter les problèmes qui ne sont pas les mêmes. Et si on ne les connaît pas, on est complètement perdu.
Ouais.
Absolument. Donc, pour finir, un autre documentaire, et là je m'arrête sur la sélection, mais évidemment la sélection est bien plus grande dans la liste. un livre des un franco-américain, journaliste à l'origine d'ailleurs, comme le personnage des livres précédents, qui s'appelle Stephen Smith. Donc les noms sont très anglophones, alors que lui, il a été correspondant pendant très longtemps des grands journaux français en Afrique. Et du coup, c'est un grand spécialiste de l'Afrique. Et maintenant, il est professeur universitaire d'ailleurs aux États-Unis. Le livre s'appelle « La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent ». J'avais légèrement évoqué le livre quand on l'avait acheté aussi. Et maintenant, il est lu, il est disponible. Et c'est un livre qui a, à part d'une thèse, qui a à la base un fondement démographique, c'est la situation. Donc en Europe, il y a à peu près 500 millions d'habitants. Il y a 1,5 milliard en Afrique. 40% en moins de 15 ans. Il y a la pauvreté. Et il y a toute une série de raisons qui font qu'évidemment, ils veulent émigrer. Et l'Europe étant riche, et d'un proche, voilà, tout ce processus se met en marche. Alors, Stephen Smith, il analyse le phénomène, il tente d'être le plus objectif possible, analyse tous les problèmes, il n'est ni d'un bord ni de l'autre, il met les faits, il les étudie, il a vraiment fait une enquête très approfondie, il fait des études sur ce qui se passe entre l'Europe et l'Afrique qui va venir, entre les problèmes qui se posent en Afrique même, avec tous ces jeunes qui partent, qui se sentent des démunis, mais qui en même temps, ce n'est pas les plus pauvres, parce que pour partir, il faut déjà avoir l'argent pour payer les passeurs. Mmh. Donc, en même temps, il y a toute une complexe relation entre l'aide qu'on prétend donner à l'Afrique et cette aide qui sert en partie à que les gens viennent en Europe, et en même temps, ça crée en Europe un déchirement entre ceux qui pensent qu'il faut accueillir tout le monde, entre ceux qui pensent qu'il faut construire un mur, une barrière pour accueillir personne, et ceux qui essayent d'être rationnels, voir quelle solution intermédiaire, quelle manière si pour autant qu'il y ait une solution, on peut trouver. Et donc le livre, il explore tout ça, il est très clair, il est très précis, il est très ouvert, et donne des pistes à la fin, dont je ne vais pas parler parce que il faudrait écouter le livre. Donc, c'est vraiment un livre qui, compte tenu de la situation actuelle, mériterait d'être écouté avec intérêt. Et donc, il est disponible avec le numéro 38126.
Oui, je pense qu'il a un double intérêt, parce qu'on subit quand même probablement, avec ce phénomène d'émigration, une assez grosse intoxication ici en Europe.
Absolument. Et alors, il y a tout. C'est un phénomène très complexe, parce qu'il y a et aussi bien les rapports, comment l'Europe voit l'Afrique, comment les gens qui prétendent aider veulent aider, comment ceux qui profitent de ça pour inciter à la xénophobie, au racisme, etc. Et comment tous ces gens-là, d'une certaine manière, fonctionnent par l'idéologie et pas par raison, par une manière objective de voir les choses. Et donc, lui, il essaye de creuser, de se débroussailler. C'est le livre, évidemment, les titres sont un petit peu polémiques. Il l'a fait exprès. Et c'est pas, le contenu n'est pas aussi polémique que ce thème, la ruée vers l'Europe. Et il y a eu pas mal d'entretiens, il y a eu des débats, et notamment avec des journalistes africains, européens. Il a été partout. Il essaye de défendre son point de vue. Et non, je trouve que c'est un livre vraiment intéressant.
Et qu'est-ce que nous avons en production ? Qu'est-ce que tu as repéré en production ?
Alors, en production, on a évidemment, comme toujours, aussi des pépites, des belles choses qui sont disponibles. On a notamment deux livres, un des nouvelles et l'autre c'est un livre d'un témoignage, en même temps un livre de voyage. Donc, le premier dont je vais parler s'appelle Dernière nouvelle du futur, un auteur qui s'appelle Patrice Franceschi. Alors, Patrice Franceschi, c'est un auteur français qui a d'ailleurs gagné en 2015, si je ne m'abuse, 2016, les prix Goncourt de la nouvelle. Donc, c'est un grand spécialiste de la nouvelle. Et dans ces cas, il va explorer un petit peu, comme son nom, comme le nom du recueil l'indique, et ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Alors, dans la dernière nouvelle du futur, il y a différents cas de figure, différentes histoires. Il y a une histoire. Alors, lui, d'un côté, il y a cette exploration, un petit peu cette connaissance et cette analyse de ce qui pourrait arriver dans le monde du point de vue scientifique, du point de vue moral aussi, par rapport à les avancées, par rapport au pouvoir omniprésent des grandes sociétés informatiques et autres qui contrôlent un petit peu le monde et nos vies. Mais il y a quand même de l'humour, un petit peu de décalage, parfois même limite potage dans certains cas. Notamment, il y a une histoire, une nouvelle qui se déroule en 2028, d'où un astrophysicien, là, dans un de ses nouveaux centres, observatoires, il identifie une planète, et sur la planète, quelqu'un a écrit, dans des grandes lettres, « Qui êtes-vous ?» Alors, il y a toute une histoire, parce que c'est tous les grands investissements qu'il fait l'humanité pour répondre à ces machins sur une planète qui a écrit « Qui êtes-vous ?» et la fin vole de tour. Je vous laisserai lire cela et il sera bientôt disponible. Et ensuite, après, il y a l'histoire des hommes augmentés. Google et autres sociétés investissent pour faire des hommes augmentés qui arrivent à courir comme l'éclair et puis à faire des choses. Donc là aussi, il y a ces histoires aussi parce qu'évidemment, pour se payer ça, il y a pas, c'est pas avec pas les bibliothécaires qui pourront devenir des hommes augmentés à l'avenir, ni les techniciens. Non, bon, augmentés mentalement peut-être, à force de lire, bien sûr, mais pas avec les outils de Google. Ça c'est clair. Et puis voilà, après il y a l'histoire aussi de voyage, c'est aussi une critique, il y a ce côté ironique sur les. Il n'y a plus de voyage, il y a des déplacements éducatifs, donc il y a des choses assez terribles et drôles en même temps qui se passent. Évidemment, il y a tout le problème des catastrophes naturelles, écologiques, le monde qui est en train de partir en vrille. Il y a un réseau secret, un peu se trouve dans différentes histoires, c'est un peu un des points qui lie, qui est les réseaux Sénèque, un réseau mystérieux qui essaye de sauver ou essayer vaguement de sauver la planète. Donc il y a toute cette histoire-là. Il y a un petit peu ces questions un peu l'influence des grands maîtres de la dystopie et des romans d'anticipation dans ces nouvelles. Mais il y a quand même, comme je dis, toujours de l'humour et toujours ces côtés ironiques qui font très agréable la lecture des dernières nouvelles du futur, qui sera probablement pour le prochain numéro. Voilà. Et puis, un autre livre qui est aussi en lecture et qui sera, je pense, disponible aussi prochainement. C'est un livre d'une Suissesse, d'une vaudoise d'ailleurs, presque lausannoise d'ailleurs, qui s'appelle Sarah Gisler, et qui est, c'est l'histoire de cette fille qui est, bon, c'est autobiographique, qui à 20 ans a décidé de tout plaquer et de partir faire les tours du monde comme ça, toute seule, toute petite, toute fragile, sans un sou en poche, et qui a évidemment reçu des coups, subi des choses, appris des choses, et elle raconte ça d'une manière assez étonnante, enfin, c'est assez étonnant pour une fille si jeune, d'être si précise dans son langage, avec autant des richesses, des pensées, puis mais de l'humour aussi, il y a beaucoup d'humour dans ces livres. Donc ça s'appelle « Petite », et Sarah Gisler, on en parlera davantage quand le livre sera disponible.
Et pour le futur, qu'est-ce que tu as repéré comme nouveauté qui attend sur ta table?
Alors voilà, sur ma table, bien fournie comme d'habitude, en plus des tomates, des poivrons et autres denrées, il y a des livres. Et parmi ces livres, il y en a deux que je trouve des livres riches en enseignement et en connaissance. Il y en a par exemple un livre de Bill Bryson, qui est un personnage lui-même déjà assez curieux. C'est un Américain qui s'est exilé en Grande-Bretagne. Il a dit, comme dirait quelqu'un un petit peu marre de ses compatriotes. Et c'est un homme d'une extrême érudition et en même temps d'un sens de l'humour. Justement, peut-être par son exil britannique, ou peut-être qu'il l'avait déjà, assez particulier. Alors, il mélange ces deux ingrédients, et il fait des livres où on apprend beaucoup sur l'histoire, sur les histoires, sur les gens, mais où on s'amuse beaucoup. Et parmi ces livres, il y a justement celui-ci qui s'appelle « L'été où tout arriva ». Alors, c'est quoi cet été? C'est l'été 1927. Je pense que tu n'étais pas né, moi j'étais petit à l'époque. Et donc l'été 1927, c'est une année. Alors, il part de ça, parce qu'il dit, voilà, comment je vais faire l'histoire des États-Unis à partir d'un été? Alors, comme on est en été, ça tombe bien. Et il prend l'été 1927. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de choses. Mais parmi les choses qui sont pensées en 1927, c'est la première fois qu'on a traversé. On a étalé depuis les États-Unis jusqu'à l'Europe, donc la traversée de l'Atlantique, en avion, Et c'était Lindbergh, le fameux aviateur, aviateur Lindbergh. Alors, quand on voit comment il a fait ça, le Spirit of St. Louis s'appelait son avion. C'était un avion dans lequel il n'avait même pas de visibilité des faces. Donc, il n'avait pas de GPS, pas de radar et pas de visibilité. Il a fait ça au pif presque. Et il est arrivé tout seul, en plus, à Paris. Alors, évidemment, il devient... Alors, Lindbergh, en tant que personnage, humainement, enfin, tout, surtout idéologiquement, c'était un gars très questionnable. Les livres vont nous parler un petit peu de ses acquaintances idéologiques. Mais, voilà, à l'époque, c'est un jeune homme plein d'intrants qui a fait ça, et puis que, surtout un aviateur extrêmement talentueux. Bon, il a fait ça, il y a la foule, on voit déjà ces débuts de l'hystérie américaine pour les héros, les cultes du héros, cette folie, et on voit tout ce monde qui est complètement dingue, et puis il y a en même temps, c'était l'année, bon, je sais qu'ici, le baseball n'est pas un sport extrêmement populaire, et, alors que par exemple à Cuba, oui, et, donc je ne sais pas si les gens, si toi que tu connais Babe Ruth,
non.
C'est un des plus grands joueurs de baseball de tout le temps. Et c'est à dans cette année-là, alors qu'on les croyait un peu finis, qu'il va battre tous les records au niveau rom-rom. Donc, en anglais, on appelle les coups de batte qui font que, voilà, qu'on puisse parcourir tout le terrain. Bref, non, c'est un truc immense. Et avec ces deux personnages, ces deux fêtes, et puis plein d'autres fêtes qui se sont passées en même temps, il construit une histoire des États-Unis et même un petit peu du monde en cette année-là, en cette période-là, qui vraiment nous amuse et nous apprend énormément de choses. Donc l'année où tout arriva, de Bill Bryson sur ma table. Et deuxièmement, un autre livre qui se situe à la frontière entre les romans et les documentaires, mais qui est basé, qui est en fait la transcription littéraire d'un fait réel, c'est un livre d'un auteur qu'on connaît bien parce que on a notamment lu, écouté un livre qui a eu un immense succès, et c'est Daniel Case. Et on a par exemple, on connaît des fleurs pour Algernon. Ce livre, ce garçon qui a des problèmes, des troubles mentaux, mais qui devient un génie, et puis qui tout d'un coup retombe à nouveau. Et un livre magnifique. Alors, Les Mille et Une Vies de Millie Milligan, comme s'appelle ce livre, c'est basé sur un fait réel. Une fois, les États-Unis, tu sais qu'il y a beaucoup de meurtres, etc., comme partout, mais là-bas en particulier. Bon, il y a un auteur, un jeune homme qui a violé quelques filles. Et il est attrapé. Sauf que quand ils attrapent ce jeune homme, il y a un truc bizarre. Il dit que c'est pas lui qui l'a fait, et tout d'un coup, il commence à parler bizarrement. Ses avocats demandent une expertise psychiatrique, et on va découvrir que ce garçon a ce qu'on appelle un trouble de la personnalité multiple, qui est assez rare. Et figure-toi qu'il a 24 personnalités différentes dans son corps. Tout à tout, il est en anglais, comme en tout cas les amis de Bill Bryson, un anglais raffiné, très aristocratique, sarcastique, ironique. Tout d'un coup, il y a un Yougoslave brutal qui parle avec l'accent yougoslave, qui a une force immense et qui manie tous les armes à feu comme un expert. Et il a une femme aussi. Et plein de choses. Et il est vraiment là. Et quand il est en prison, c'est très difficile de les saisir parce qu'il est vraiment là. Il ne fait pas semblant. Et les personnalités, selon les contextes, prennent les dessus. Et puis c'est assez, déjà pour lui, c'est assez douloureux parce qu'il essaye d'être lui-même, mais il n'arrive pas. Enfin, pas toujours. Et donc, ça fait tous les journaux américains qui sont friands de tout ça commencent à en parler. Et puis David et Daniel Case, qui à la base est psychologue, s'y intéresse et va les voir. Et il fait une relation de confiance, et puis pendant longtemps, il va les visiter en prison, il va échanger, sauf qu'il échange avec 24 personnages. Et après ça, il essaye de reconstruire, les garçons essayent de se reconstruire lui-même, et avec tout ça, il a écrit ce livre, qui est assez fascinant, qui s'appelle « Les Mille et Une Vies » de Billy Milligan. Voilà, parmi les choses qui nous attendent sur la table, bien sûr, en attendant la rentrée.
Alors justement, à propos de rentrée, comment ça se présente? Bon, il y a Mort sur les quais.
Ouais.
On n'y est pas encore, mais vu qu'on enregistre ça quelques jours avant, mais on va se retrouver à Morges-sur-les-Quais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Alors, bien sûr, il y a des gens, des auteurs de la rentrée qui seront à Morges. Et puis, cette rentrée littéraire, bon, la rentrée littéraire qui est un phénomène, enfin, en tout cas, une invention française, en quelque sorte, nous dit qu'il y aura, cette année, tu sais que la rentrée d'automne, donc cette rentrée-là commence, d'été et automne, commence en août, donc elle est 16 août, et s'étend théoriquement jusqu'à 31 octobre. Après, ça peut continuer. Évidemment. Alors, il y aura 567 romans. Ouf. Dont, oui. Moins que l'année passée, un petit peu moins que l'année passée. Donc, 380 en français. Il y en a plein de nouveaux romans, des jeunes qu'on ne connaît pas. Mais évidemment, il y a les grosses pointures. Alors, il y a, bien entendu, alors, si je te dis une auteure femme, comme ça, avec un chapeau qui sort un livre, ponctuellement, comme ça, comme une montre suisse dans chaque rentrée. Tu penses à qui? Ça commence par A. Après, il y a un N. Il s'appelle Amélie.
Ah, mais une maison. D'accord.
Évidemment, mais celle-là, évidemment, c'est presque... Ouais, c'est tellement évident, banal, qu'on ne va pas en parler. Alors, il y a Alain Mabankou, cet auteur qui est très, très sympa, très riche, un grand conteur, dont on va lire son livre. Et le livre dernier, il y a Serge Cour, il y a Christophe Boltanski, des gens qui sont connus. Il y a, dans les étrangers, parmi les pointures des jadis qui sont toujours là, il y a Salman Rushdie, qui va sortir un nouveau roman. C'est caustique sur les États-Unis, et etc. Donc il y a John Kalman Stefansson, l'Islandais, qui est aussi du lourd. Et alors voilà, il y a des auteurs comme ça. Et puis, dès chez nous, alors il y a notamment, entre autres, mais pas seulement, il y a Metin Arditi. Metin Arditi, qui a sorti un nouveau roman qui s'appelle Carnaval Noir, qui vient de sortir. C'est un roman très intéressant et qui est, oui, se situe à la frontière entre les romans historiques et les romans en suspense. Et une jeune fille est morte, qui fait des études d'histoire, qui fait des recherches à Venise, et elle fait des études sur quelque chose qui s'est produit au XVIe siècle à Venise, dans ce qu'on appelle les carnavals noirs, de là les titres du livre, et une série de meurtres contre une société. Et en même temps, on découvre qu'en plein XXIe siècle, il y a un complot étrange entre un groupuscule qui se situe à l'intérieur des Vatican, qui est complice avec des gens de Daesh, parce qu'il y a un pape qui est trop gênant, parce qu'il est trop accueillant avec les migrants. Tiens, on revient au livre dont on parlait tout à l'heure. Et donc, il y a des intrigues qui, en même temps, nous posent dans la réalité contemporaine. Et il y a du suspense, il y a bien évidemment, comme toujours, de l'érudition chez Metin Arditi. Et figure-toi que c'est un livre passionnant, grâce à la magie de la BSR, même s'il vient de sortir, il sera peut-être disponible déjà pour ce numéro du BSR actuel. Alors, voilà. Et puis, bien sûr, il y aura une lecture aussi au Livre sur les Quais, mais comme ça sortira à peu près en même temps, de toute façon, on l'annoncera par une autre voie. Mais, magnifique. En tout cas, il sera très certainement, très probablement disponible pour ce numéro.
Magnifique, excellente nouvelle. On voit que la BSR en avance, comme d'habitude.
On essaye. Et puis, on fera un peu plus des mises au point et d'analyses de la rentrée prochains mois.
Que ce sera en cours, absolument. Absolument. En tout cas, merci. Et puis, on se donne rendez-vous à la fin du mois de septembre.
Avec plaisir. Voilà.